Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International Évreux. Pour ceux qui étaient déjà à l'antenne tout à l'heure, vous nous avez déjà entendu en direct du lycée Aristide Briand pour une grande première dans la série des émissions Fréquences Droits Humains avec l'antenne jeune d'Amnesty.
Voilà, c'était surtout l'antenne jeune. Voilà, nous, on était à côté. Jeune,
bien sûr. Et c'était sur le thème des minorités sexuelles. Alors vraiment, on est très très content du travail qu'on a fait avec eux, sans vouloir se flatter nous-mêmes, mais on est vraiment très content. Et on ne peut que vous conseiller de réécouter l'émission qui sera mise très très vite en podcast sur le site Principe Actif, à la rubrique Fréquences Droits Humains. Donc réécoutez-la parce que c'est vraiment un très beau travail et une très belle émission qui a été réalisée grâce à l'investissement de nos jeunes du lycée.
Et des intervenants.
Et des intervenants. Et c'est une grande première aussi, je pense, pour Amnesty France même à ce niveau-là, de faire une émission avec une antenne jeune sur ce thème-là, dans un lycée. Je pense que c'était encore
Didier
jamais fait.
Très, 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 très fier.
Ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir surtout de voir, effectivement...
Mais il y avait beaucoup d'engagement des jeunes, voilà. Et c'était très émouvant.
Voilà, c'est ça qui est important, effectivement, de voir que les jeunes générations aussi se mobilisent par rapport aux droits humains. Ce dont on vous parle, nous aussi, dans le studio, deux fois par mois. Donc là, c'est notre première émission du mois d'octobre. Et puis, ce soir encore, comme d'habitude, de beaucoup de choses au menu de l'émission. On va vous parler de peine de mort, on va vous parler de droits bafoués en Égypte, on va vous parler aussi de Polynésie. Je crois que c'est la première fois qu'on va parler de Polynésie dans l'émission.
Ouais.
C'est Colombe qui va vous en parler. Mais j'ai pas dit qui était autour de moi à l'antenne. Il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Il y a Édith.
Bonsoir.
Et il y a donc Colombe.
Bonsoir tout le monde.
Voilà.
Et Vincent, dis donc,
et Vincent,
manette.
Et Vincent qui nous fait la technique.
La technique.
Vincent, qui est la coordinatrice des émissions Fréquences Droits Humains.
Donc, elle vient de travailler. Alors, voilà. Respect. Hein.
Voilà. Donc, deuxième émission de la journée pour vous. On va vous parler aussi de migrants en Grande-Bretagne. Je vais vous dire quelques informations par rapport à ça. Nos infos locales, enfin, etc., etc. Ce ne sont pas les sujets qui manquent, comme d'habitude. Donc, pour commencer, je pense que Claire-Lise va nous parler de la peine de mort, puisqu'on l'a...
D'abord, je voulais dédier l'émission.
Oui, c'est vrai.
Alors, à trois personnes à qui je pense très fort ce soir... qui, je pense, ne peuvent pas m'écouter. Donc, je pense très fort à Esmeralda, Andy et leur petite fille, Andesi. Donc, Esmeralda et Andy sont de jeunes Albanais qui ont fui leur pays pour demander asile en France. Leur demande d'asile a été déboutée. Ils sont sortis de ce qu'on appelle le CADA, quand ils sont logés, quand ils sont demandeurs d'asile. Ils sont sortis du CADA courant juin. Pour préparer leur sortie, puisque Esmeralda a fait une demande de titre de séjour santé, pour préparer leur sortie, j'avais écrit à la direction départementale de la cohésion sociale le 18 mai 2018 et à monsieur le préfet de l'Eure pour demander à ce qu'ils ne soient pas éjectés dans la rue, mais comme il y avait un travail de régularisation, à ce qu'ils puissent être hébergés. En fait, dès le mois de juin, on a réussi à retarder un petit peu leur sortie du CADA, mais dès le mois de juin, ils se sont retrouvés à la rue. Donc Andy, Esmeralda, qui est malade, et leur petite fille Andesi, qui a 2 ans, dorment dans une voiture depuis le mois de juin. Donc juin, juillet, août, septembre, on est le 16 octobre. Ce matin, j'ai réécrit au préfet et à la direction départementale de la cohésion sociale. Pour ceux qui ont regardé l'émission suite au pique-nique solidaire le 1er septembre, il y a un couple qui avait été filmé par FR3 le soir, un jeune couple d'Albanais, ce sont eux. Voilà, donc l'émission, je leur dédie et je pense très fort à eux et au droit à l'hébergement d'urgence en France.
De toute façon, on ne lâchera pas, c'est pas dans le genre d'Amnesty de lâcher.
Oui, mais pour l'instant, c'est eux qui sont dehors et qui, tous les soirs, espèrent.
Voilà, bon, ben non, je vais vous parler de la... Je suis en train d'écouter l'émission, qu'elle est continuée. Donc, je vais vous parler de la peine de mort, puisque le 10 octobre dernier, c'était la journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort.
Ah bon ?
Voilà, dans le monde. Et c'est une campagne aussi d'Amnesty, hein, depuis des années, pour l'abolition de la peine de mort. Je vais d'abord vous parler d'une jeune femme qui, elle, a été exécutée le 2 octobre, qui s'appelait Zeynab Chekhavand. Alors, peut-être j'écorche son nom, elle vient d'Iran. Elle est une jeune kurde iranienne de 24 ans qui a été exécutée dans la matinée du 2 octobre et dont la condamnation se base sur des aveux obtenus sous la contrainte. Criminelle, mineure délinquante, voilà quelques-unes des nombreuses manières de décrire Zeynab Chekhavand au cours de sa vie trop brève. Donc Zeynab a rarement été considérée comme la personne qu'elle était réellement, une jeune femme vulnérable, prise au piège d'un cycle de violence et d'abus sexuels dès son enfance. Donc la jeune femme qui avait 24 ans quand elle a été pendue avait passé près d'un tiers de sa vie en détention. En février 2012, elle a été arrêtée et jugée pour le meurtre de son mari qui avait eu lieu quand elle avait 17 ans. Elle a signalé avoir été violée par son beau-frère, torturée par des policiers après son arrestation. Le plus dérangeant dans le cas de Zeynab, c'est le nombre de fois où les autorités iraniennes auraient pu intervenir pour l'aider. Zeynab a parlé des abus qu'elle subissait. Elle s'est exprimée et les autorités ont fait la sourde oreille. Ce scénario est bien trop familier pour de nombreuses femmes et filles. Mais parce que Zeynab Chekhavand vivait en Iran, son histoire a pris un tour particulièrement sombre. Elle est loin d'être la seule en Iran, l'un des derniers pays au monde à continuer à procéder à l'exécution de mineurs délinquants. Au moins 88 personnes qui étaient mineures au moment des faits qu'on leur reproche se trouvent actuellement dans le quartier des condamnés à mort. Certaines y languissent depuis plus de 10 ans. Le cas de Zeynab rappelle en particulier celui de Fethemeh Sabeni, exécutée en 2015 à l'âge de 23 ans pour le meurtre de son mari qu'elle avait été forcée à épouser quand elle avait l'âge de 16 ans. En regardant de près l'affaire Chekhavand, illustre à quel point tout joue contre les femmes quand elles ont affaire à la justice iranienne. Née dans le nord-ouest du pays, dans une famille kurde d'Iran, pauvre et conservatrice, Zeynab avait 15 ans lorsqu'elle a fui son foyer pour épouser un homme nommé Hossein Charmandi. Elle a déclaré qu'elle considérait ce mariage comme sa seule chance d'avoir une vie meilleure. Son mari était toutefois un homme violent et leur relation a vite été marquée par des agressions physiques et verbales. Zeynab a demandé le divorce plus d'une fois, mais son mari a refusé. En Iran, les discriminations profondément enracinées au sein du système de justice vis-à-vis des femmes et des filles empêchent celles-ci, souvent, d'obtenir le divorce, même si elles sont victimes de violences domestiques. Donc la vie de Zeynab a été définie par un système juridique qui défavorise les femmes de manière éhontée, un système qui fixe l'âge minimum de responsabilité pénale à 9 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons, et l'âge minimum pour se marier à 13 ans pour les filles. Il n'érige pas en infraction le viol d'une femme par son époux. Il impose avec violence la pratique abusive, discriminatoire et dégradante du port forcé du hijab et aux femmes et jeunes filles. Et il envoie en prison les personnes qui se mobilisent contre cela. Il s'agit d'un système où le témoignage d'une femme compte moins que celui d'un homme. C'est pourquoi pas une seule personne d'importance n'a écouté l'histoire de Zeynab. Les personnes qui comptent ont plutôt choisi d'y mettre un terme. Et donc par rapport à cette journée du 10 octobre, journée donc contre l'abolition mondiale contre la peine de mort, Amnesty International a lancé une campagne pour mettre en lumière des cas au Bélarus, au Ghana, en Iran, au Japon et en Malaisie, où la cruauté de la peine de mort est monnaie courante. Donc la détention à l'isolement, avec ou sans moyen de contrainte, est une pratique commune pour les personnes condamnées à mort. Dans le cas de Matsumoto Kenji, un détenu condamné à mort au Japon, c'est probablement ce châtiment particulièrement inhumain qui a déclenché le trouble délirant à cause duquel il serait devenu paranoïaque et incohérent. Donc, Matsumoto Kenji est dans le quartier des condamnés à mort depuis 1993. Il souffre depuis longtemps d'un handicap mental dû à un empoisonnement au mercure et d'un faible QI situé entre 60 et 70 d'après le diagnostic d'un psychiatre. Pourtant, les autorités judiciaires ont jugé qu'il avait les facultés mentales nécessaires pour être condamné à mort et que ses aveux étaient fiables, bien que son avocat ait affirmé que Matsumoto Kenji avait été soumis à des pressions par la police. Encore un Iranien aussi, qui a, donc Mohammad Reza Haddadi, donc il a passé toute sa vie de jeune adulte dans le quartier des condamnés à mort après avoir été déclaré coupable d'homicide à l'issue d'un procès d'une iniquité flagrante et condamné à mort à l'âge de 15 ans. Il est l'une des 84 autres personnes condamnées à mort en Iran pour des crimes commis alors qu'elles avaient moins de 18 ans. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est un des seuls pays au monde où on continue à condamner des mineurs.
Au moment des faits.
Ouais. Non seulement sa condamnation constitue une violation du droit international relatif aux droits humains, mais en plus, Mohammad Reza a été soumis à la torture psychologique de voir son exécution programmée et repoussée 6 fois ces 14 dernières années. La dernière fois que son exécution a été programmée, le 31 mai 2016, Mohammad Reza avait bénéficié d'un sursis de dernière minute grâce au tollé général provoqué par l'annonce de son exécution imminente. En raison du manque de transparence en ce qui concerne le recours à la peine de mort en Malaisie, les détenus condamnés à mort tels que Ho Ye Moa ne sont pas informés des possibilités de déposer un recours en grâce. Donc ça, c'est encore un autre pays, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens en Malaisie sont détenus au secret et ne sont pas informés de leurs droits. Donc, Uwewa a été condamné automatiquement à la peine de mort en mai 2011 à l'issue de procédures judiciaires iniques. En mars 2005, alors qu'il avait 20 ans, il a été trouvé en possession de 188 grammes de méthamphétamine.
C'est de la drogue.
Ouais, il a été automatiquement soupçonné de trafic de stupéfiants, puis déclaré coupable et condamné à la pendaison. Il attend toujours une réponse à son recours en grâce, déposé en avril 2014 auprès du sultan de l'état de Johor. Il aura 33 ans en décembre et il a déclaré « Si j'en ai l'occasion, je veux prouver que j'ai changé ». Et alors, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer, mais au Bélarus, le recours à la peine de mort est entouré de secrets. Les exécutions sont cachées au public et sont menées sans que les condamnés à mort, leurs proches ou leurs avocats n'en soient prévenus à l'avance. Un ancien directeur du centre de détention provisoire de Minsk, la prison où sont détenus tous les condamnés à mort au Bélarus, a déclaré à Amnesty International que le prisonnier est, dans un premier temps, conduit dans une pièce où on lui annonce, en présence des représentants de l'État, que sa demande de grâce a été rejetée et que sa peine va être appliquée. Il est ensuite mené dans une pièce adjacente où on lui met un bandeau sur les yeux et des menottes au poignet. On le contraint à s'agenouiller avant de lui tirer une balle dans l'arrière de la tête. Conformément à la législation en vigueur, les autorités bélarusses refusent de remettre le corps des personnes exécutées à leurs proches ou de dévoiler où elles sont enterrées. Il s'agit là d'un héritage de l'époque soviétique.
Bébé.
Et donc, ensuite, par rapport au dernier pays par lequel aussi il y a une action d'Amnesty pour dénoncer ce qui s'y passe, c'est le Ghana. Donc, les conditions de détention des prisonniers condamnés à mort sont également très rudes au Ghana. Et lorsqu'Amnesty International s'est rendu à la prison de Nsawan en 2016, les détenus sous le coup d'une condamnation à mort ne pouvaient pas participer à des activités éducatives et récréatives, ce qui entraînait un sentiment d'isolation, provoquant des souffrances et de l'anxiété. Des détenus condamnés à mort ont déclaré à Amnesty International que les soins médicaux étaient limités. Ils ont indiqué qu'ils avaient des difficultés à obtenir les médicaments nécessaires pour soigner les maladies ou les pathologies de longue durée, car ils n'étaient parfois pas disponibles ou bien ils étaient trop chers pour les détenus. Un prisonnier condamné à mort a fait part de la peur qu'il a ressentie lorsqu'il est tombé malade. Lorsqu'on est malade la nuit et que le gardien ne vient pas nous aider, on peut mourir. Que ce soit au Bélarus, au Ghana, en Iran, au Japon ou en Malaisie, les gouvernements des pays où des personnes sont condamnées à mort doivent veiller à ce qu'elles soient traitées avec humanité et dignité et à ce qu'elles soient détenues dans des conditions conformes aux dispositions du droit international relatif aux droits humains et aux normes en la matière. Il est temps que les États qui appliquent toujours la peine de mort l'abolissent et mettre fin aux conditions de détention lamentables auxquelles trop de personnes, sous le coup d'une condamnation à mort, sont soumises.
Alors, on peut donner une bonne nouvelle après tous ces récits terribles autour de la peine de mort. La Malaisie semble aller vers l'abolition de la peine de mort. Alors, la Malaisie, c'est ce que tu as raconté au niveau des conditions. Le gouvernement malais a annoncé le 10 octobre qu'il prévoit d'abolir la peine de mort pour tous les crimes.
C'est un effet d'annonce le jour de la journée mondiale.
Voilà, on va bien voir.
On reste vigilant.
On va bien voir,
mais... c'est pas définitif.
Voilà. Et je voulais pas vous plomber complètement le moral, mais pour faire la transition avec Didier qui va nous parler de l'Égypte. En Égypte aussi, il y a des personnes, il y a 17 personnes qui ont été jugées en même temps et qui ont été condamnées à mort en même temps. Donc elles sont toutes accusées d'avoir perpétué des attentats meurtriers contre des églises, ainsi que des attaques contre les forces de sécurité. Donc elles ont été condamnées à mort après un procès militaire qui s'est passé de façon assez irrégulière. Donc rien ne peut justifier les attentats, bien sûr, condamnables au plus haut point, qui ont visé les fidèles dans les églises coptes d'Égypte en 2017. Mais il ne fait aucun doute que les auteurs de ces actes doivent rendre des comptes. Mais prononcer une condamnation collective à la peine capitale à l'issue d'un procès militaire inique, ce n'est pas rendre justice et cela ne permettra pas de prévenir d'autres attaques motivées par l'intolérance religieuse.
Oui, autre bonne nouvelle quand même par rapport à la peine de mort, c'est qu'on a aussi appris hier que l'État de Washington aux États-Unis était le 20e État, donc des États-Unis, à abolir la peine de mort. Aux États-Unis, la peine de mort est du ressort de la législation de chaque État. Et donc, c'est le 20e État qui vient de l'abolir. Donc, effectivement, la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, évidemment, progresse, y compris aux États-Unis, même s'il reste encore là aussi beaucoup de travail.
Ouais, beaucoup d'États encore, et certains qui sont extrêmement, on va dire, qui fournissent pas mal de peines de mort de gens qui sont condamnés, quoi. Quand je vois Alabama, Arkansas, Floride, Georgie, Missouri, voilà, c'est quand même assez terrible pour certains États. Faut mieux savoir où on habite aux États-Unis.
Hein. Oui. Donc voilà, inutile de vous répéter pourquoi la peine de mort est une sanction inique, inhumaine, etc., etc. Tout ça, on est tous absolument convaincus et surtout non dissuasives. Oui, donc on vient vous parler de l'Égypte.
Moi, tu vas parler de l'Égypte.
J'ai une petite action à vous proposer pour si vous nous écoutez, si vous avez envie de participer avec nous. Donc l'action, ça consiste à interpeller les autorités égyptiennes pour leur demander où sont passés Ezat Goniem et Azoz Magoub. Ce sont un avocat et un défenseur des droits humains qui ont été arrêtés en Égypte. Bon, vous savez que l'Égypte a une politique très très répressive par rapport aux défenseurs des droits humains depuis pas mal d'années, et ça ne va pas en s'arrangeant. Donc ils ont été arrêtés, et dans un premier temps, ils ont bénéficié d'une libération. Seulement, depuis qu'ils sont supposés être libérés, personne ne sait où ils sont passés. Donc Amnesty demande à ce qu'on interpelle les autorités égyptiennes pour faire une enquête et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc le 4 septembre, un tribunal a ordonné leur mise en liberté conditionnelle dans l'attente des résultats d'une enquête à leur sujet. Les forces de sécurité les avaient transférés dans des postes de police distincts, où ils devaient être détenus jusqu'à leur libération. Le 14 septembre, leurs familles sont allées leur rendre visite, mais les forces de sécurité ont affirmé qu'ils avaient déjà été libérés. Formidable, ils sont libérés, mais ils ne rentrent pas chez eux. Leurs familles et leurs avocats ont indiqué à Amnesty International qu'ils ignoraient ce qu'il était advenu d'eux et où ils se trouvaient. Les deux hommes étaient sous la garde des forces de sécurité égyptiennes lorsqu'ils ont été vus pour la dernière fois, alors qu'ils étaient détenus dans deux postes de police différents. Amnesty International pense qu'Ezad Goniem et Azoz Magoub ont tous deux été victimes d'une disparition forcée et courent un risque élevé de torture. Leurs familles craignent également que le juge, compte tenu des conditions de leur mise en liberté, n'ordonne à nouveau leur placement en détention s'ils ne se présentent pas à la prochaine audience. Donc on interpelle les autorités égyptiennes pour qu'elles informent effectivement où sont passées ces deux personnes, puisqu'elles ne sont pas rentrées chez elles. Également qu'une enquête soit ouverte et que leur famille soit informée dans les meilleurs délais de la situation de ces deux personnes qui, pour l'instant, donc, comme on vous le disait, ont disparu. Donc si vous voulez, il y a une lettre toute faite, hein, bien évidemment, à envoyer aux autorités. Si vous voulez vous joindre à nous pour participer à cette action et faire cette lettre, eh bien, vous nous envoyez vos coordonnées sur amnesty.evreux@gmail.com, amnesty.evreux@gmail.com, et on vous renverra toutes les explications sur cette action et aussi la lettre à faire. Merci pour eux. Voilà, on va peut-être faire une petite pause musicale.
Quelque chose d'un petit peu plus léger, peut-être.
Un petit peu, parce qu'après, on ne sait pas.
Bon, on fait après, il y aura la nouvelle est assez positive.
Ah, super, super, on t'attend, Colombe.
Donc, un petit peu de musique, et c'est quelqu'un qu'on va aller voir en concert. On sera présent avec Amnesty, ouais. qu'on va aller voir en concert au mois de novembre. Attendez la fin de l'émission, vous aurez la date.
Assassin de la nuit, je t'espionne, tu me soupçonnes, je t'alarme, tu me cambrioles, je te vise, tu me cibles, je me rends, tu me descends. Assassin de la nuit, assassin de la nuit, assassin de la nuit. Assassin de la nuit, oh, oh. Je te hausse, tu me noies, je te coule, tu me bois. Je te sphinx, tu me félines. Je te démon, tu me divines. Oh, tue-moi encore. Oh, tu me tues. Assassin de la nuit. 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 Assassin. Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Tu me déportes, tu me grands larges, je te détache, tu me dérives. Tue-moi encore. Oh, tu me tues. Assassin de la nuit.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International d'Evreux pour la suite de son émission bimensuelle sur les droits humains et la défense des droits humains. On vient d'entendre donc Assassin de la nuit d'Arthur H. Et donc, on vous le répète, on va le voir tous ensemble bientôt. Edith, tu voulais nous parler
Moi,
de Chine.
Je veux pas parler.
Tu voulais pas parler?
Non, parce que je pense que Colombe va nous donner une bonne nouvelle, et moi, je veux ma bonne nouvelle.
Oh, je suis désolé, ça fait deux erreurs depuis le début de l'émission. Je suis
impardonnable. T'as beaucoup travaillé cet après-midi.
Je suis impardonnable. C'est Colombe.
Oui. Du coup, on va rebondir sur un sujet qui est assez positif par rapport à la première partie de l'émission, puisqu'il s'agit des essais nucléaires en Polynésie. on se rend compte en fait que récemment la question de l'environnement est de plus en plus importante. Enfin, ça l'a toujours été, mais récemment on se rend compte que ça l'est encore un peu plus. Il y a un regain d'intérêt ces derniers mois, et là on va plus se centrer donc sur le nucléaire, puisque le 2 octobre dernier, il y a le parti indépendantiste polynésien, donc dont Monsieur Oscar Temaru est à la tête, qui a porté plainte contre la France devant la Cour pénale internationale. Donc par rapport à ça, en fait, il vise les essais nucléaires et il fustige les effets dangereux sur la population et sur l'environnement, puisqu'il y a des conséquences sanitaires qui sont extrêmement critiquables. Concrètement, on a affaire à des cancers et des leucémies qui sont provoquées aussi bien par les tirs qui sont souterrains ou les tirs qui sont aériens. Et dans un contexte temporel, en fait, ça vise la période qui s'étale de 1966 à 1996, donc un long moment, une bonne vingtaine d'années, et en particulier sur les deux atolls, donc des sortes d'îles d'archipel, pardon, des sortes d'îles sur l'archipel polynésien, où on a recensé plus de 193 essais nucléaires. Donc voilà un peu en ce qui concerne les éléments, enfin, le background, on va dire, lorsqu'on dresse le portrait. Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est la position d'Amnesty International. Et lorsqu'on regarde, enfin, que ça soit sur Internet ou lorsqu'on fait enfin, un peu de recherche, de la documentation, donc le fondement juridique de la plainte devant la Cour pénale internationale, c'était les crimes contre l'humanité. Et Amnesty International se réfère aux textes internationaux, notamment au statut de la Cour pénale internationale pour définir ce que c'est les crimes contre l'humanité. Et textuellement, c'est tous les actes perpétrés dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématiquement dirigée contre une population civile en connaissance de l'attaque. Donc là, ce qui est assez atypique, et c'est pourquoi j'ai choisi le sujet, c'est que c'est assez rare de rattacher tout ce qui est question de l'environnement à crimes contre l'humanité. Et on peut se poser la question du bien fondé, de la recevabilité de cette attaque, puisque d'un certain point de vue, on peut se dire que c'est extrêmement positif, puisqu'on essaie de faire bouger les choses. On allie deux sujets, l'environnement et la question aussi de l'indépendance de certains territoires. Mais on peut aussi, ça a le mérite de poser la question, mais on peut s'interroger, ça ouvre le débat. Mais je suis assez optimiste. Je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. Notamment, ça s'aligne dans ce qui s'est passé récemment aux États-Unis avec l'affaire Monsanto. Je pense que tout le monde en a à peu près entendu parler à propos du glyphosate et des effets que ça avait sur le corps. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose de très très positif, ou du moins médiatiquement. Donc je voulais partager ça avec vous. Et justement poser la question et ouvrir le débat. Donc les essais nucléaires et la plainte contre la France.
Est-ce qu'on sait si la Polynésie a une chance de que cette plainte ait une chance d'aboutir ou pas?
Moi, je trouve que c'est extrêmement symbolique. Après, il y a pas mal de juristes qui pensent que c'est une interprétation trop large des textes. Puisque généralement, par exemple, au Yémen ou ce qui s'est passé au Rwanda, on retient la qualification de crime contre l'humanité. Mais là, je pense que ça a plus une portée symbolique et ça donne plus de l'espoir que concrètement, je ne sais pas. On est assez mitigé en fait sur l'issue de cette action.
Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est qu'Amnesty International a pris aussi position en disant que c'est une évidence, les armes nucléaires sont, alors je vais vous le dire précisément, sont les armes les plus destructrices, les plus inhumaines et non discriminantes jamais conçues. Et qui rappelle que actuellement est en discussion, ça fait jamais la une de l'actualité non plus, on se demande pourquoi, est aussi en discussion actuellement un traité d'interdiction des armes nucléaires et que ce traité pourrait éventuellement entrer en vigueur fin 2019. Pour l'instant, évidemment.
Bah, éventuellement, France, ça me semble un bon terme, quoi.
Parce que, bien sûr, la position de la France, pour l'instant, est plus que réservée par rapport à ce traité, puisque la France possède l'arme nucléaire.
On a quand même beaucoup de centrales nucléaires, en plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment ancré.
Oui, le nucléaire en France est quelque chose qui est très difficile à faire bouger, c'est sûr. Mais cette discussion autour de ce traité existe, donc c'est quand même une information à avoir. Bien, je ne vais pas faire d'erreur pour la troisième fois, quand même. C'est bien Edith qui va vous parler des week-ends.
Est-ce moi, vraiment moi? Oui, moi j'ai envie de voyager, mais bon, c'est vrai que ce que j'ai découvert, c'est des contrées que j'aime beaucoup, l'Asie, mais ce que j'ai découvert Bon, c'est pas forcément, comment dire, pour donner envie d'aller en Chine, par exemple. Voilà. Donc moi, je vous emmène un peu dans le nord-ouest de la Chine, dans la province du Xinjiang. Pareil, prononciation personnelle, et on a le droit de la reprendre. Où vivent les Ouïghours, les Kazakhs et d'autres ennemis qui sont gravement menacés. Car actuellement, environ 1 million de personnes, ce sont des ethnies qui sont la plupart musulmanes, sont détenues dans des camps d'internement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, effectivement, depuis un an, les autorités chinoises mènent une campagne de plus en plus intense d'internement en masse, de surveillance intrusive, d'endoctrinement politique et d'assimilation culturelle forcée à l'encontre des Ouïghours, des Kazakhs et autres groupes ethniques majoritairement musulmans qui vivent dans cette région. Les démonstrations publiques et même privées d'appartenance religieuse et culturelle, parmi lesquelles le port de la barbe, le port d'un voile ou d'un foulard, les prières régulières, le jeûne, le fait de s'abstenir de boire de l'alcool ou encore la possession de livres ou d'articles relatifs à l'islam ou à la culture ouïghour peuvent être considérés comme extrémistes. Les voyages à l'étranger pour le travail ou les études, en particulier dans des pays à majorité musulmane, ainsi que les contacts avec des personnes situées en dehors de la Chine, constituent également des motifs de suspicion. Et cela concerne des hommes ou des femmes, des jeunes ou des âgés, des citoyens ou des ruraux, tous les citoyens risquent un placement en détention. Les contrôles de sécurité sont omniprésents. Ils font maintenant partie du quotidien des habitants de la région autonome ouïghour du Xinjiang. Ce sont autant d'occasions de fouiller les téléphones portables à la recherche de contenus suspects ou de vérifier l'identité des gens au moyen de ces fameux logiciels de reconnaissance faciale dont la Chine est vraiment...
Je crois qu'elle est les leaders dans le monde actuellement pour l'utilisation de ce genre de d'atteinte aux droits fondamentaux.
Voilà, puisqu'elle arrivait même à arrêter des gens dans les aéroports, à l'extérieur, etc. Alors, les citoyens peuvent faire l'objet de soupçons à la suite d'une surveillance systématique aussi de leurs messages envoyés sur des applications de réseaux sociaux telles que WeChat, qui n'utilisent pas le chiffrement de bout en bout, ou WhatsApp, et cela peut aussi entraîner un placement en détention. Alors, qu'est-ce que c'est cette détention? Eh bien, ce sont des camps. Alors nous, on va dire rééducation. On les connaît aussi par des camps de transformation par l'éducation. Et même dernièrement, j'ai entendu des camps de formation professionnelle. Dixit, les autorités.
Ça rappelle les vieilles années de la Chine.
Absolument, absolument. Alors les personnes qui sont envoyées dans ces camps ne sont forcément pas jugées, mais elles sont privées d'accès à des avocats et au droit de contester leur placement en détention. Elles peuvent languir en détention pendant des mois, car ben, ce sont forcément les autorités qui décident du moment où la personne est transformée. Vous voyez un petit peu ce qui peut se passer. Alors, il y a un témoignage, là, je crois que Colombe avait proposé de me le lire.
Oui, je me propose de le lire et je préviens d'avant, je risque d'écorcher.
Mais non, mais c'est un peu les noms.
Mais
comment ça, Colombe ne parle pas couramment le mandarin? Ça, c'est indispensable.
Il nous manque. Ça fait partie de mes qualités, hélas. Donc, je me lance et je m'excuse d'avance.
Pas de souci.
Kairat Samarkand, j'espère que c'est comme ça, a été envoyé dans un camp de détention en octobre 2017. Après être rentré au Xinjiang à l'issue d'un court séjour au Kazakhstan voisin, la police lui a indiqué qu'il était placé en détention car il était accusé de posséder la double nationalité et avait trahi son pays. Il a été libéré en février 2018. Kairat a raconté qu'on lui avait placé une cagoule sur la tête, entravé les bras et les jambes et qu'on l'avait forcé à rester debout dans une position fixe pendant 12 heures d'affilée lors de son arrestation. Il y avait environ 6000 personnes dans le même camp où elles étaient contraintes de clamer des chants politiques et d'étudier des discours du Parti communiste chinois. Elles ne pouvaient pas se parler et devaient scander « Longue vie à Xi Jinping ». Oh mon Dieu, c'est horrible. Pardon. Avant le repas. Kairat a avoué que son traitement l'avait conduit à tenter de se suicider juste avant sa libération.
Alors donc vous vous rendez compte les conditions dans ces camps. J'ai un autre témoignage qui dit effectivement chaque matin il faut faire une marche de type militaire et crier des slogans. Et si vous êtes vu au centre en train de faire une prière ou tout autre acte religieux, on vous envoie directement en prison. Donc c'est vraiment des conditions terribles. Les détenus qui résistent et ne montrent pas suffisamment de progrès subiraient des punitions, insultes verbales, privation de nourriture, détention à l'isolement, coups, recours à des entraves et maintien dans des positions douloureuses. Il y a même des cas de mort en détention qui ont été signalés et aussi des suicides pour des personnes qui ne supportent plus ces mauvais traitements. Les autorités chinoises affirment que ces mesures extrêmes sont indispensables pour lutter contre le terrorisme et assurer la sécurité nationale. Donc on imagine bien comment ça peut se passer et effectivement ça rappelle des souvenirs de ces camps de rééducation qui ont dû s'arrêter dans les années 2005-6, quelque chose comme ça je pense.
En Chine, je sais pas.
Je pense que j'ai la date quelque part.
J'ai pas l'information.
Alors, en plus de la personne qui est détenue dans les camps, il y a les familles aussi. Et pendant des mois, les familles des personnes portées disparues ont gardé leur angoisse pour elles, car elles espèrent que la perte de contact avec leurs proches dans leur pays d'origine sera temporaire. Elles craignent d'aggraver la situation si elles cherchent à obtenir une aide extérieure. Mais à présent, sans signe d'une fin proche de leur supplice, elles sont de plus en plus nombreuses à s'exprimer. Alors, Bota Kusain, membre de l'ethnie kazakh et étudiante à l'université d'État de Moscou, a parlé pour la dernière fois avec son père sur WeChat en novembre 2017. Originaire de la région autonome ouïghour du Xinjiang, leur famille a déménagé au Kazakhstan en 2013. Elle est perdue dans ses papiers. Voilà, excusez-moi, les autres se sont retournés. Le père de Bota, lui, est retourné en Chine à la fin de l'année 2017 pour voir un médecin. Mais les autorités ont confisqué son passeport après son arrivée dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Bota a appris par des proches habitant sur place que son père avait été envoyé dans un camp de rééducation. Mais ses proches avaient tellement peur que tout autre contact ne leur vaille d'être suspecté à leur tour qu'ils ont cessé de communiquer avec elle. Bota déclare « Mon père est un simple citoyen, nous étions une famille heureuse avant qu'il ne soit arrêté. Nous vivons dans la peur chaque jour. Cela fait énormément de mal à ma mère. Nous ne savons pas où il se trouve. Nous ne savons même pas s'il est encore vivant. Moi, je veux revoir mon père. » Et effectivement, les amis et les parents établis à l'étranger expriment un sentiment de culpabilité. Car il semble que ce sont précisément ces liens en dehors de la Chine qui valent à de nombreux proches vivant dans la région autonome ouïghour d'être suspectés. Les autorités les accusent d'être liés à des organisations étrangères qui, selon le gouvernement chinois, diffusent des opinions religieuses extrémistes ou complotent des activités terroristes. Et alors, cerise sur le gâteau, qu'est-ce que fait la Chine pour les gens originaires de cette contrée ouïghour, mais qui sont à l'extérieur du pays ? Eh bien, elle essaye d'exercer une pression sur les personnes qui vivent en dehors du pays. Les services de sécurité chinois tentent activement de recruter des espions dans les communautés établies à l'étranger. Leurs cibles sont, semble-t-il, menacées de voir les membres de leur famille habitant la région ouïghour du Xinjiang être détenus si elles ne coopèrent pas. En revanche, si elles coopèrent, on leur promet que leur proche sera traité avec indulgence.
Ça s'appelle du chantage.
Ah bon ? Oui. Tu crois ? Moi, je crois que c'est... Ouais. Un petit peu ça quand même. Et un peu la peur aussi, faire régner la peur partout. Le fait d'ignorer qui, au sein de la communauté établie à l'étranger, pourrait fournir des informations aux services de sécurité chinois, crée une suspicion et une méfiance qui s'enracinent et alimentent encore le sentiment d'isolement et de crainte. Et la campagne de répression systématique menée par les autorités chinoises a des effets dévastateurs sur la vie de millions de personnes. Je vous rappelle, on pense qu'il y a effectivement... Je ne voudrais pas dire de bêtises. 1 million de personnes qui doivent être enfermées actuellement dans les camps. Vous vous rendez compte ?
C'est un bon moyen pour faire peur à la population. Ça, c'est pas, voilà. Ils n'ont pas inventé grand-chose.
Voilà. Donc, à part effectivement que dernièrement, la Chine, j'ai vu ça, c'est une journaliste de France 2, Justine Jankowski, qui dit le mois dernier, donc les Chinois niaient encore l'existence de ces camps où 1 million de personnes seraient enfermées. Eh bien, ils sont aujourd'hui légaux selon les autorités chinoises, mais on ne parle pas de camps, mais de centres de formation professionnelle. Voilà.
Bien sûr.
Voilà.
On change de terme, c'est tout.
Bon, donc, et tout ça par rapport à la soi-disant menace islamiste qui pèse en Chine. Et on voit un petit peu comment, comment dire, la passoire chinoise a quand même de très très gros trous et laisse passer tout le monde pour n'importe quoi.
C'est aussi un motif bien, bien facile à trouver pour justifier, enfin pour utiliser une répression dans tout autre but que la lutte contre le terrorisme.
Voilà. Alors j'avais envie de vous parler aussi de la disparition de gens célèbres, mais je vais peut-être garder ça pour une autre fois.
Je pense que
voilà. Donc la Chine, pour l'instant, voilà, oui. Bon, enfin, vous pourrez trouver les articles. Là, c'est vraiment le retour de systèmes chinois qu'on a déjà vu et qui sont quand même très inquiétants. Et surtout qu'en plus, les autres pays, l'Occident, ne disent rien pour l'instant. Voilà. Oui. C'est très.
Peut-être que les raisons commerciales aussi.
Oui, c'est ça. C'est qu'elle a développé tellement de commerce avec l'Occident, la Chine.
Ça permet de tenir les pays plus démocratiques, à disposition, quoi, qui ne s'intéressent.
On pourrait dire que
pas trop dans les affaires.
Les intérêts financiers sont peut-être prédominants.
Bah, malheureusement.
Dire ça comme ça.
Malheureusement. On vous rappelle que pour nous, c'est les droits humains qui sont prédominants. C'est marrant et on n'arrivera pas à changer là-dessus. Pierre-Lise.
Oui.
Vous voulez nous parler de prix Nobel, c'est ça ?
Eh bien oui, parce que c'est la période des prix, la rentrée littéraire, tout ça, il y a eu tous les prix, et il y a aussi le prix Nobel. Et en fait, je voulais vous parler du prix Nobel de la paix, qui a été décerné cette année à deux personnes simultanément. Donc le médecin congolais, Demi Mukwege, et la militante yézidi, Nadia Mourad. Donc ils viennent d'obtenir le prix Nobel de la paix. Donc c'est un combat contre les viols de guerre qui est récompensé. Donc chacun dans leur pays ont combattu justement ce que nous on dénonce très très souvent maintenant, c'est une arme qui est vraiment dévastatrice, ce sont les crimes, les viols de guerre, les crimes contre les femmes et les jeunes filles. Et donc Amnesty International adresse ses chaleureuses félicitations à Denis Mukwege et à Nadia Mourad pour ce prix qui récompense et reconnaît leur travail courageux de soutien aux victimes des violences sexuelles commises lors des conflits. Donc ils représentent une lueur d'espoir dans un monde où le viol et les autres formes de violences sexuelles continuent d'être une terrifiante composante des attaques menées en temps de guerre et d'être souvent utilisés pour infliger des souffrances, réduire au silence et semer la peur. Alors, je vais juste vous parler un petit peu de chacun d'eux. Donc, on va redire son nom, on s'en lasse pas, Denis Mukwege. Et en fait, c'est un médecin, et on l'appelle l'homme qui répare les femmes.
Vous te rappelles du film ?
C'était le titre film. Du film qu'on a passé d'ailleurs avec eux.
Voilà.
Donc, en fait, il était en salle d'opération quand l'attribution de ce prix a été annoncée. Prix qui récompense sa détermination indéfectible à soigner les femmes et les filles dans son hôpital. Donc, grâce à ses soins et à sa compassion, des milliers de victimes de viols et d'autres violences sexuelles commises dans l'est de la République démocratique du Congo ont pu surmonter leurs blessures physiques. Malgré une tentative d'assassinat et les attaques visant sa famille, Denis Mukwege continue inlassablement de mener campagne contre les violences sexuelles commises lors de conflits. Il est un remarquable défenseur des droits humains. Et l'autre personne qui a obtenu ce prix avec lui, c'est Nadia Mourad. Donc c'est un témoignage vraiment très courageux qu'elle a entrepris devant les Nations Unies, qui a révélé toutes les horreurs inimaginables subies par les femmes et les filles yézidis, retenues en captivité et utilisées comme esclaves sexuels en Irak par le groupe armé qui se faisait appeler État islamique, et qui montre que les victimes de violences sexuelles et d'autres formes d'atteinte aux droits humains ne peuvent pas être réduites au silence ou ignorées. Donc en fait, le combat pour les femmes yézénites, hein, c'est quelque chose qui est quand même important. Oui, le temps passe, mais je veux quand même finir. ça y est, tu m'as fait perdre le fil de ce que j'étais en train de faire.
C'est derrière la page. Cherche.
Voilà. Donc, en 2015, Nadia Mourad s'est exprimée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, décrivant ce qu'elle avait subi quand elle a été enlevée et forcée à l'esclavage sexuel par le groupe armé se désignant sous le nom d'État islamiste en Irak.
Depuis, elle a à maintes reprises lancé des appels pour que des enquêtes soient menées sur les crimes commis par l'État islamique et pour que les auteurs présumés de ces crimes soient déférés à la justice. Il faut savoir que, en fait, quand l'État islamique était tout puissant en Irak, ils enlevaient des jeunes garçons et des enfants. Les jeunes garçons, ils les obligeaient à devenir des combattants armés. Ils violaient les femmes et ils enlevaient les petites filles et ils les vendaient comme esclaves sexuels ou ils les vendaient à 9 ans pour épouser
des dignitaires
de l'État islamique. Voilà. Et elles ont énormément souffert, les femmes de cette ethnie, face à l'État islamique, notamment par rapport à des crimes sexuels d'une rare violence. Voilà, donc c'était important. Je trouve que c'est bien que soient récompensées ces deux personnes et qu'on puisse reparler un petit peu de cette forme de guerre qui est pas comme une guerre armée, mais qui est encore plus dévastatrice parce que ça détruit des êtres humains.
Ah oui, puis elle reste inscrite dans les populations. Et oui. En retour de paix, les choses ne sont pas simples.
Pour s'en convaincre, parce que l'utilisation du viol comme arme de guerre, pour se convaincre de l'aspect désastreux des conséquences, il faut revoir effectivement le film L'homme qui répare les femmes, consacré au docteur Mukwege.
Il doit être en DVD sans
problème. Il est sorti en DVD depuis, effectivement. Il est passé aussi à la télévision, ça je sais, sur plusieurs chaîne et je pense qu'il va être diffusé comme il a eu prix Nobel certainement. Si vous avez l'occasion de le voir, effectivement, faut le voir, ça fait comprendre.
C'est l'engagement vraiment d'une personne. Voilà.
On va écouter quelques secondes de musique parce qu'on va manquer de temps, mais quelques secondes de musique quand même.
See you coming by. It's a hint of paradise.
retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, on vient d'entendre un morceau qui est assez connu, hein, mais c'est une reprise que j'aime bien, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, un morceau qui s'appelle Oye Komova. Voilà, aucun rapport avec les droits humains, a priori, avec ce morceau, mais juste le plaisir
c'est, d'écouter. C'est un que t'aimes bien. Voilà. C'est le plaisir, on a le droit de se faire du plaisir.
Bon, tout à l'heure, on vous a parlé de l'Indonésie qui était peut-être en train de.
La Polynésie.
Oui,
non, la c'est Polynésie. La Malaisie.
Ah, c'était la Malaisie, non, c'est en Indonésie.
Oh, c'est pas grave, c'est fini pareil.
Ça fait rien. De toute façon, l'Indonésie, tu m'as dit quoi là
C'est la Malaisie.
La Malaisie, ça va pas être très bon. Mais bon, je sais pas, faudrait vérifier.
Si, ça va aller.
Mais
c'est
ça
pas,
faisait aussi un lien, une bonne nouvelle qui fait aussi un lien avec ce que vous a dit Colombe tout à l'heure. Donc en Indonésie, Eri Butiawan, moi aussi j'ai des noms compliqués à lire, militant écologiste dit Budi Pego, a été libéré début juillet 2018. Il avait été condamné à 10 mois d'emprisonnement en janvier 2018 pour atteinte à la sûreté de l'État. Ça, c'est quand même balèze, l'atteinte à la sûreté de l'État. À chaque fois qu'il y a des gens qui sont condamnés de façon arbitraire, il y a toujours une espèce d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est vraiment un truc passe-partout. Quoi. Il s'agissait de la première condamnation au titre de l'article interdisant l'idéologie communiste depuis la chute de Suharto en 1998. Donc, Eri Butiawan a remercié l'enthousiasme de toutes les personnes qui l'ont soutenu à Amnesty International. Voilà. Une autre, tiens, on va parler de la Fédération de Russie, parce qu'on dit souvent.
Ça fait longtemps notre ami Poutine, là.
On dit souvent toutes les critiques qu'on pense, et Dieu sait qu'on en pense, envers le régime russe et notre ami, notre faux ami,
Poutine.
Voilà. Donc, une bonne nouvelle. Le 18 juillet, là aussi, tiens, c'est la même date. Le 18 juillet, le tribunal du district de Kalinin, Saint-Pétersbourg, a condamné l'ancien greffier et lanceur d'alerte Alexandre Eyazov à 1 an et 10 mois de détention dans une colonie pénitentiaire ouverte pour ingérence dans le cours de la justice. Le 28 juillet, il a été libéré car il avait purgé complètement sa peine en détention provisoire. D'après son avocat, cette affaire était politique et non juridique, ce qui expliquait selon lui la sévérité de la peine, mais faisait des concessions pour les deux parties, permettant à Alexandre Eyazov d'être libéré quelques jours plus tard et aux autorités de sauver la face.
Ouais, mais il a quand même passé du temps en préventive.
Oui, mais pour nous, c'est quand même une bonne nouvelle dans le sens où ça aurait pu être pire, c'est clair. Puis on va terminer, tiens, sur un pays dont on ne parle pas souvent, Cuba. Le 3 juillet 2018, les autorités ont libéré Ariel Ruiz Urquiola, prisonnier d'opinion et docteur en biologie, ancien chercheur pour l'Université de La Havane. D'après des documents qu'Amnesty International a pu consulter, les autorités pénitentiaires lui ont accordé une libération conditionnelle à l'issue de grèves de la faim prolongées qu'il a menées. Et Amnesty International continuera de surveiller sa situation. Voilà. Donc ce sont quand même des gens qui ont bénéficié de libération, même si là aussi, il aurait été bien mieux que ces gens-là ne soient jamais arrêtés, puisqu'ils n'avaient en tout état de cause jamais commis aucun délit. Bon, on arrive au terme de l'émission.
Un petit peu de local.
Un petit peu de local, voilà. Donc, on va vous donner des dates. Alors, Edith me disait que c'était encore loin dans le temps.
Je trouve que ça fait un peu loin pour noter sur le calendrier, parce que vous changez le mois.
Mais déjà, dans vos agendas, ça n'empêche pas de mettre des croix sur les jours. Donc, le mardi 6 novembre.
Ça fait un peu une manette du jardinier.
Michel le jardinier, un peu prisonnier, tu sais, qui barre les jours.
Non, mais après on oublie.
Mais chacun son truc, Didier. Après, tu fais comme tu veux. Après, tu fais comme tu veux. Fais tes croix.
Donc, le mardi 6 novembre, on sera présent avec la scène nationale pour une pièce qui apparemment est tout à fait passionnante, qui s'appelle Mon cœur. C'est sur l'histoire du scandale du Mediator, que vous avez surtout entendu parler, et des gens qui sont
morts. Et de la lanceuse d'alerte, le docteur qui a.
Voilà. Donc, bien sûr, on sera présent. C'est sur le thème du droit à la santé, c'est bien évident. Et c'est une pièce, c'est au Cadran à Évreux. Merci Edith, c'est au Cadran à Évreux, à 20h, donc le mardi 6 novembre. Donc venez avec nous voir cette pièce. Toujours théâtre, le mardi 27 novembre, mais là c'est pas à Évreux, c'est au Grand Forum de Bouvier, enfin c'est pas loin. Une pièce qui est jouée par 10 femmes non comédiennes, qui parlent des droits des femmes, des droits des migrants et du racisme, et qui s'appelle Flamme. Là aussi c'est une pièce dont j'ai eu d'excellents échos. De toute façon, ce que fait la scène nationale de Tangramme, en général, c'est de très bonne qualité.
Et en plus, quand ils nous invitent, c'est encore mieux.
D'accord. Donc on tiendra aussi un stand ce jour-là. Donc on vous rappelle la date. Là, c'est le mardi 27 novembre, à Louviers, au Grand Forum, à 20h. Et on sera aussi présent pour 2 soirées musicales au mois de novembre. Donc Je me trompe dans les dates. Le vendredi 9 novembre, c'est la plus proche, au Cube, à Évreux. Le Cube, c'est facile à trouver, hein, c'est à côté du Cadran. Une soirée avec Bombino. Bombino, c'est un guitariste qui fait du rock, tout Harald Gecko dont on m'a dit. Je ne connais pas vraiment, mais ça doit être intéressant. Donc on est invité aussi à être présent à cette soirée. Donc Bombino, le 9 novembre au Cube. Et le samedi 17 novembre, comme on vous disait tout à l'heure quand on a passé le premier morceau de musique, c'est Arthur H. Arthur H, c'est le fils de Jacques Higelin. Donc il sera au Cube le samedi 17 novembre. Et bien sûr, Amnesty International Évreux aussi. Donc vous pourrez nous voir, signer nos actions et participer et assister au concert. Donc on vous rappelle quand même les dates. Hein. Donc mardi 6 novembre, Mon Cœur au Cadran, théâtre. Mardi 27 novembre, Flamme au Grand Forum de Louviers, théâtre. Vendredi 9 novembre au Cube, Bombino, musique. Et samedi 17 novembre, Arthur H. au Cube, musique également.
Et prochaine émission ici ?
Prochaine émission le mardi 30. Le mardi 30 octobre à 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Pour faire le lien, juste encore 10 secondes, pour faire le lien, si il nous reste une minute, pour faire le lien avec l'émission de tout à l'heure qu'on a fait au lycée sur les droits des minorités sexuelles. Ce soir, c'est une coïncidence du calendrier, France 2 diffuse deux documentaires consacrés à ce thème. Alors, c'est pas de bonne heure. Un à 23h qui s'appelle Ni d'Ève, ni d'Adam, et qui est consacré à une histoire de personnes intersexes. Et à 0h20, Trans, c'est mon genre, donc un deuxième documentaire. Voilà. Donc, si vous avez du temps ce soir et si vous êtes libre, vous pouvez regarder la télévision.
Dire... Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. À bientôt. Rendez-vous le 30. On laisse l'antenne au laboratoire.
Des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.